Le casque de réalité mixte d'Apple, stay tuned, ne vous éloignez pas trop, répond Tim Cook, interview à la presse chinoise qui relance les spéculations sur une éventuelle présentation avant la fin de cette année, et pourquoi pas dès la rentrée. Détecter la maladie de Parkinson, une nouvelle corde à l'actif de l'Apple Watch, les autorités de santé américaines ont donné leur feu vert, des dizaines de milliers de patients vont en bénéficier et ce n'est qu'un début, c'est l'info de la semaine. Il s'appelle Michael Login, c'est un génie de la retouche photo, les constructeurs automobiles se l'arrachent et entre deux shootings à Los Angeles, il sera dans un instant en duplex avec nous pour discuter de sa discipline, des outils qu'il utilise et des bénéfices de l'intelligence artificielle ou pas. Pommes avec les premiers tests du MacBook Pro 13 pouces M2, il arrive demain vendredi. Pas dingue, il n'a de pro que le nom, dit même Engadget. Et puis comme chaque semaine, les mises à jour avec du nouveau pour la suite iWork, ma maison connectée avec du Philips Hue dedans et les rumeurs de la semaine, un pas de plus pour les futurs Apple Glass. iWeek, la semaine Apple, épisode 96, 43 numéros déjà pour cette saison 2. Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 23 juin 2022. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité au rendez-vous du jeudi soir. Je suis très très heureux de vous retrouver pour cet épisode sur 9 fuseaux horaires, puisque dans un instant, nous appellerons notre invité en duplex de LA. D'abord la team, les Français, presque, enfin les Français de France en tout cas, hein, presque au complet. Salut Élie.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde, ravi d'être là.
Et pareil, Élie, cofondateur des magasins MCS, ses Apple Premium Reseller à Nice, Cannes et Aix-en-Provence, et président du réseau des APR en France, Élie.
Oui, depuis le temps qu'on le dit, ils se sont toujours pas aperçus que j'étais toujours président. Ils m'ont voté il y a 10 ans et ils m'ont oublié.
Tu vois, c'est bon signe. Si ça allait pas, ils te l'auraient dit.
Ouais, peut-être.
C'est comment ça marche.
Bah, un jour, ils vont finir par s'en rendre compte.
Oui, c'est ça. Bon, salut François Letruédic.
Salut Benjamin, salut à tous. Très heureux de vous retrouver en ce beau mercredi soir, enfin, jeudi soir. Et désolé si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a l'orage qui gronde en Bretagne.
Eh ben écoute, on te souhaite d'être bien à l'abri. Tu as eu une semaine chargée avec des installations de Mac, d'iMac M1 dans tous les sens.
Ouais, je vous ai envoyé des petites photos sur notre petite conversation. J'ai reçu 37 iMac, donc du coup, il a fallu les déballer, les installer, etc. Et merci Apple au niveau de l'écologie, mais c'est vrai que mine de, quand on déballe 37 avec toutes les protections plastiques, par-ci, par-là, etc., t'as vite fait d'y passer une journée ou deux, donc voilà. Mais je suis content, je me suis amusé comme d'habitude à faire une belle répartition en variant les couleurs et puis à faire un joli mur de carton, c'est très esthétique.
C'est donc toi qui as tous les iMac M1 de France, quoi. C'est toi qui as tout reçu.
Notre APR du coin nous avait dit, si vous en voulez, j'en ai en stock, prenez-les maintenant, sinon pas sûr que vous en aurez. Donc on a fait, ouais, envoie.
Bon, bah écoute, en tout cas, ça te fait un très joli mur, hein, effectivement, dans le couloir. Toutes ces boîtes, c'est magnifique. Une sorte de petit trompe-l'œil. Et salut à toi, Fabrice Neumann.
Salut, salut à toutes et à tous. Salut la team.
La team. Bonjour à Tim Cook.
Non, la team.
Salut Tim, hi.
Depuis qu'ils se fréquentent, on l'arrête plus.
Sinon j'ai remarqué que tu pensais que Los Angeles c'était l'enfer parce que t'as dit LA. Avec un beau H devant et du coup t'as pas envie d'y aller.
C'est vrai, hein, si j'y vais. J'y retourne dans un mois donc tu vois. Non, au contraire, je suis trop impatient. Et c'est vrai que je vous ai promis un invité en duplex de Californie où c'est le début de la matinée. Je suis très très heureux et on est très heureux de t'accueillir. Michael Login, salut.
Salut à tous. Enchanté,
pareil. Bienvenue dans iWeek.
Bon, merci de me recevoir.
C'est l'heure du petit-déj pour toi.
Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Le petit-déj est passé parce qu'ici, les gens se lèvent tôt.
Ouais, c'est vrai.
Mais ouais, c'est le matin. C'est le début de la journée. En bonne compagnie.
Exactement. Exactement. Et on est super content que tu sois là. Alors, tu es retoucheur, photo et coloriste.
Tout à fait. C'est ça.
Et si on a le plaisir de t'inviter, c'est parce que tu es considéré comme l'un des meilleurs dans ton domaine. Alors c'est un sujet à la fois super pointu et fascinant. Bon, en un mot, c'est juste le sommaire, hein, mais combien de temps tu peux passer à retoucher une seule image?
Ah, je pense que le maximum qu'on fait, avec les corrections clients et ce genre de choses, ça peut aller jusqu'à 4 jours, je pense.
Ah oui?
Wow.
4 jours, donc 40 heures, 40 heures de retouche pour une image. Mais ça peut aller, il y a déjà, quand les clients ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et en même temps, très peu, c'est très 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 subjectif en fait. Mmh. Donc,
Bon écoute, tu es bien installé, on va te retrouver dans quelques minutes pour parler de ton métier, aussi des outils que tu utilises, de ce que peut-être l'arrivée des nouveaux Mac, du M1, du M2 change pour toi.
Voilà.
On a très envie de t'entendre. Et puis, comme on va parler d'un sujet, je crois, qui t'intéresse beaucoup, tu interviens évidemment quand tu as envie.
Très, très intéressant, je pense. Ouais.
Ça va être passionnant. Et,
ça va être vraiment cool. Ouais.
Et sans toi, comme chez toi, tu nous interromps absolument quand tu veux.
Ok, je ne me gênerai pas. Merci.
Alors,
encore.
Chaque semaine, désormais, dans la foulée de l'épisode hebdo, on enregistre un bonus juste après le générique de fin. Il est pour notre communauté Patreon qui le découvre chaque semaine. Nous, on les enregistre en mode, on n'enregistre plus, mais en fait, ça tourne encore. Et si vous voulez en profiter, c'est sur patreon.com/iWeek. Et vous aurez aussi la satisfaction de nous aider financièrement. Et vous aurez notre reconnaissance éternelle, bien évidemment. Nous suivre sur Twitter, ça se passe at iWeekNews. Suivez notre compte. Et puis, on compte sur vous aussi pour retweeter nos infos. C'est super important. Enfin, je vous rappelle cet autre podcast consacré à l'actu Apple, la quotidienne iWeek. Désormais gratuit, 5 jours par semaine, sur toutes les plateformes. Les 5 infos essentielles du jour en 5 grosses minutes. Et puis, tant que vous y êtes, laissez donc un petit avis sur Apple Podcast et une note 5 étoiles. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Allez, dans un instant, le calendrier qui se rapproche peut-être pour le casque de réalité mixte d'Apple. Et on parlera ensuite de ce nouveau débouché pour l'Apple Watch. À tout de suite. L'événement de la semaine, c'est donc cette interview à la presse chinoise donnée par Tim Cook. Interview réalisée le 14 juin, mais sortie il y a 24 heures, à peine plus, dans laquelle Tim Cook accepte d'évoquer le sujet de la réalité augmentée. Il ne parle pas d'ailleurs de réalité virtuelle, hein. Le sujet qui l'intéresse vraiment, c'est la réalité augmentée. Il se dit extrêmement impatient de mettre les pieds dedans, en tout cas c'est ce qu'on sent, et il invite ceux qui lisent l'interview à ne pas s'éloigner trop et trop longtemps d'Apple, parce que visiblement des choses vont se passer dans un intervalle de temps pas si lointain. Je vous propose d'écouter cette interview de Tim Cook qui a été réalisée en FaceTime et donc en vidéo.
Hi Mr. Cook.
Hi.
Nice to meet you online. Chinese consumers are highly enthusiastic about VR and AR technologies, but some of them are not very satisfied with the products currently available on the market. So what do you think are the key factors for AR products such as AR headsets to succeeding in the consumer market?
That's a great question. I am incredibly excited about AR, as you might know. And the critical thing to any technology, including AR, is putting humanity at the center of it. And that is what we focus on every day. Right now, as an example, we have over 14,000 AR kit apps in the App Store, which provide AR experiences for millions of people around the world. But I think despite that, we're still in the very early innings of how this technology will evolve. I couldn't be more excited about the opportunities we see in this space, and sort of stay tuned, and you'll see what we have to offer.
Voilà, Tim Cook qui dit stay tuned à propos du futur casque de réalité mixte ou augmentée. Est-ce que là, c'est une manière d'officialiser le fait que ça va vraiment arriver, Ellie?
Oh ben, de toute façon, c'est pas officiel, mais tout le monde le sait. Ils l'ont présenté au board, donc ça veut dire que ce produit existe, contrairement à certaines voitures qui sont plutôt virtuelles. Donc on va bien finir par le voir. Hein.
Mais non, Élie, c'est de la voiture augmentée, on a dit.
on va demander si jamais tu as fait des petites retouches sur une Apple Car pour faire croire aux gens qu'elle existe.
Allez, les NDA sont assez puissants, vous savez. Donc
Damn Ned.
Bon, Mika, tiens, puisque tu es là et puisque tu t'intéresses au moins autant que nous à ces sujets, tu sais que le casque, c'est avec les lunettes, les futures lunettes de réalité augmentée, c'est un peu le projet qui nous fait tous rêver. Tim Cook qui dit stay tuned, quelque part, c'est quand même une étape de plus, non?
Moi, ça me rassure en tout cas. Ça rassure mon petit enfant excité par cette technologie, en fait. Et c'est vrai que moi j'avais testé le Meta Quest que j'ai et ça m'avait bluffé, ça me bluffe encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça enferme beaucoup les gens, ça enferme beaucoup la personne qui l'expérience. Donc du coup, le fait que Tim dise et soit plus intéressé par la réalité augmentée, j'ai hâte de voir ce qu'ils pourraient proposer, parce que c'est le dada d'Apple, en fait, de faire des produits qui rassemblent les gens. Et j'ai l'impression que c'est quand même il prend la direction opposée de Facebook, en fait. De Meta maintenant. Et j'ai hâte de voir, voilà, j'ai l'impression qu'ils prennent deux chemins vraiment différents. Et j'ai hâte de voir là où, les intéressés vont aller, le public, en fait.
Ouais. Élie, avant d'aller vers Fabrice et François.
Il y a deux choses en fait qui m'ont frappé dans l'interview hein, que vous avez découvert en audio, même si on n'a pas mis l'intégralité. La première, c'est que Tim insiste que d'ores et déjà c'est une réalité puisqu'il y a 14 000 applications dans l'App Store qui utilisent ARKit. Donc aujourd'hui, pas sur des lunettes ni un casque, mais elles existent. Donc ça veut dire que pour Apple, la réalité augmentée, c'est une réalité déjà. Pour l'instant, il ne va pas jusqu'au bout de l'expérience. Et la deuxième chose, et c'est là où ça va être vraiment très intéressant, et ça va expliquer pourquoi, et j'en parle après dans mon dîner, Apple fait effectivement cavalier seul et ne s'associe pas avec les autres grands acteurs, c'est parce que Tim Cook a expliqué que le but d'Apple, c'est de mettre de l'humanité dans l'air et de mettre l'humain au centre de l'expérience de réalité augmentée. Et là, vraiment, je pense qu'Apple, ils vont faire des choses qui vont nous bluffer.
Fabrice, comment tu perçois cette interview, le fait que Tim Cook s'autorise à dire voilà, bougez pas, ça va pas trop tarder?
Bon, moi, ça m'excite pas vraiment parce que il a dit ça depuis. Oui, ça fait dans notre petite discussion, effectivement, avant, en préparation de l'épisode, moi je me suis endormi quoi quand on a parlé de ce sujet-là, parce que la réalité augmentée, Tim Cook, il en parle depuis des années. Alors on se moque gentiment parce qu'il avait dit une fois qu'il aimerait bien faire des tableaux numbers dans son casque de réalité virtuelle augmentée, mais il en parle, et puis on voit rien venir. Donc moi j'ai très envie aussi, comme tout le monde, d'essayer tout ça. Et en plus c'est la réalité augmentée, donc pas la réalité virtuelle. Donc on sait qu'on n'est pas à la fin de l'année ni l'année prochaine, etc. Donc le stay tuned, faut rester en apnée pendant 2 ans, c'est long, hein. Donc moi je comprends pas bien l'excitation. Enfin j'ai envie aussi, mais ce dont il parle, c'est pas prêt. Donc peut-être que je me trompe et que ce sera donc d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant je comprends pas.
Moi je ne devrais pas dire stay tuned si ça prend 2 ans. Mais qu'est-ce que t'en penses, François?
Moi j'ai une info en breaking news. Je pense que l'Apple Car sera présenté à travers le casque de réalité augmentée d'Apple.
Grâce aux images
produites par notre ami Mika.
Non mais attends, non. Sérieusement, si ça se trouve Mika, ça se trouve tu bosses dessus et tu peux pas le dire.
Mais je ne peux même pas répondre à cette question.
En anglais on dit I can neither confirm nor deny.
Exactly.
Non mais quand tout à l'heure vous allez voir la liste des marques avec lesquelles Mika a déjà travaillé dans le monde de l'automobile, c'est forcément, t'es forcément sur le projet, y a pas.
S'il y a projet, ou alors peut-être que je ne suis pas dessus.
Ah, c'est drôle. Bon,
tu le diras en fin de conversation pour les Patreons, non, c'est ça? Abonnez-vous pour ça.
Voilà, exactement. Évidemment. Ce sera dans le bonus. Non, mais sérieusement. Alors, vous savez quoi, on va se mouiller parce que là effectivement on n'a pas énormément d'autres billes à partager avec vous. Cette interview elle est quand même non négligeable parce que moi j'estime que le Stay Tuned, allez, moi je vois pas un délai au-delà du début de l'année prochaine, sinon ça veut rien dire.
Pour la présentation ou pour la commercialisation?
Non, pour la présentation.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Oui, oui. À mon avis, avant Noël.
Donc dans les 6 mois pour moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. C'est quoi votre estimation, Mika? Tu dirais que ce serait quand la présentation du casque?
Ben, je suis un peu comme Fabrice. Je pense que c'est bien qu'ils le disent, ils disent Stay Tuned, tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret derrière? C'est la bonne question. Donc moi, idéalement, effectivement, fin d'année ou début d'année prochaine, mais en même temps, on attend toujours le Mac Pro en Apple Silicone. Donc
c'est pas faux. Non, mais c'est très juste.
Non, mais je pense que le monde aujourd'hui, c'est beaucoup de teasing en fait. Les gens annoncent beaucoup de choses et pour faire parler. Mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a pas beaucoup de choses concrètes, on va dire. Donc ouais, on attend de la concrétisation de tout ça. Et si c'est là où Apple est forte, donc s'ils arrivent à concrétiser ça, c'est là où ils prendront tout le monde à court et ça serait bien pour eux, comme ils l'ont fait avec le silicone.
Ouais, ok, fair enough, comme on dit là-bas. Ok. François, tu dirais quoi comme timing?
Moi, comme je l'ai dit dans la quotidienne, à mon avis, une année, on s'attendait un peu à ça pour cette année, pour la WWDC, moi je miserais sur l'année prochaine, et on le dit et on le répète, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de travail pour les développeurs, donc entre le moment où la techno va être présentée et le moment où ce sera commercialisé, il peut s'écouler au minimum 6 mois, voire plus, quoi, donc... Non, moi, à mon avis, le Stay Tuned, à mon avis, restez connectés, mais pendant un petit paquet de mois ou d'années, en espérant que ça finisse pas comme l'Apple TV, quoi. Enfin, la télé d'Apple, lapsus.
Ok. Qui n'est jamais sorti, donc, c'est ce que tu veux dire.
C'est ça.
Bon, et Fabrice, toi, raisonnablement...
Non, mais je reprends. On espérait tous, et c'était l'analyse qu'on avait qui s'est révélée fausse, mais de voir quelque chose à la WWDC avec, alors autour d'AirKit. Alors il y a eu des nouveautés AirKit, mais qui ont franchement pas fait la une des blogs. Hein. Donc les briques avancent petit à petit, visiblement plus lentement, en tout cas que nous on souhaiterait, ça c'est sûr, mais peut-être aussi plus lentement qu'Apple le souhaiterait, notamment en termes de techno, pour tout ce qui est casque de réalité augmentée où on voit au travers, que ce soit par des caméras ou par des verres semi-transparents sur lesquels on projette des images. On a déjà parlé des objets de réalité augmentée pour lier par exemple à la série For All Mankind. Ça y est, on est à, je sais pas, 10 minutes d'enregistrement, j'ai déjà parlé de For All Mankind, je voudrais quand même qu'on note. donc les briques sont prêtes, mais je pense que le matériel n'est pas prêt, et je rejoins ce que disait François, il faut absolument qu'il y ait, même s'il y a déjà des applications qui sont dans l'App Store, elles sont pas adaptées à un casque que personne n'a encore jamais vu, à part peut-être le board, donc il va falloir des mois avant pour que les développeurs s'y préparent. Donc voilà, d'ici la fin de l'année, il va y avoir l'iPhone, et puis peut-être des iPad M2, des machins comme ça, donc ça va... Apple va avoir du mal à faire de la place à un événement réalité augmentée, à mon avis. Donc, début d'année prochaine.
Oui, Eli ?
Petite hypothèse pour essayer de contenter tout le monde. Moi, je verrais bien une présentation fin d'année ou début d'année prochaine, ça on l'a dit, avec déjà pour occuper le terrain, et ensuite avec une disponibilité du casque aux environs de la WWDC. Pourquoi ? Parce que ça permettrait aux sociétés de développement qui sont riches, qui peuvent se payer ce type de casque, de pouvoir dire, bah voilà, on vous a dit ce que c'était, voilà le casque, maintenant travaillez sur les applis qui vont sortir pour l'Apple Glass, qui arrive là après. Parce qu'il faut bien quelque chose pour développer des apps pour l'Apple Glass. Parce que c'est là où va se jouer le marché. Hein. Le casque, il va sortir, c'est sûr. Mais bon, à 3000 euros, ils vont pas en vendre, ça va pas être comme des iPhones, hein. Ils vont pas en vendre des dizaines de millions à ce prix-là. Hein.
À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. L'interview de Tim Cook a remis un tout petit peu d'essence dans le moteur. En attendant, on attend.
Parle pas de moteur, malheureux.
Ouais, je sais.
Il est bon.
Mais voilà, je pense qu'on va en reparler avant qu'il sorte ce casque. Je pense qu'on va en reparler. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve pour l'info de la semaine. C'est ce feu vert de la FDA aux États-Unis qui concerne l'Apple Watch et une nouvelle maladie qui va pouvoir être détectée à votre poignet. À tout de suite. L'info de la semaine, c'est donc ce feu vert de la FDA, l'autorité de santé américaine, d'accord pour que l'application Strive PD, qui détecte les symptômes de la maladie de Parkinson, soit installée massivement sur l'Apple Watch de patients qui en ont besoin et pour qui cette appli va probablement marquer un moment important. Ellie, l'Apple Watch au cœur de la stratégie de santé d'Apple, plus que jamais, parce qu'il y a la maladie de Parkinson, mais il y a aussi les autres nouveautés dont on a déjà parlé, qu'on attend aussi, peut-être le diabète et peut-être d'autres encore.
Oui, absolument. On verra d'ailleurs ce qui sera possible avec les Apple Watch série 8 qui vont arriver à la rentrée. WatchOS 9 pour l'instant ne nous dit pas trop de choses par rapport au capteur et c'est normal, mais on le saura. On sait de toute façon qu'Apple a besoin de l'accord de la FDA pour pouvoir sortir un produit à connotation médicale. Donc ils travaillaient, ils avaient fait des tests justement sur Parkinson jusqu'au moment où on leur a dit c'est bon, on est convaincu par vos tests, on valide l'application. Et là du coup Apple peut se permettre de la mettre à la disposition de tous ces utilisateurs qui devaient attendre ça comme le messie. Et donc de la même façon, si Apple arrive à trouver une façon de mesurer le glucose dans le sang pour les diabétiques, etc., donc, et que c'était validé par la FDA, ben pareil, hein, y aurait encore plus de monde qui se jetterait dessus, parce que là c'est une utilisation qui pourrait être quotidienne, hein. Et c'est pour ça que, comme je vous le dis à chaque fois, moi je trouve que l'Apple Watch devrait être remboursé par la Sécurité sociale.
Alors, on va en discuter. Avant ça, je voudrais que vous écoutiez Sumbul Desai, la vice-présidente monde d'Apple chargée de la santé. Elle était à Paris vendredi pour VivaTech, dont c'était la 6e édition Porte de Versailles. Elle a passé un peu plus de 20 minutes sur la scène principale. Et en voici un extrait.
I think we're still very much in the early innings, as we say, of our work in health. And, you know, we continue to focus on empowering the user to be at the center of their health and thinking about how do we do that in meaningful ways. And what we're really focused on is thinking about how do we continue to take complex problems and simplify them. And, you know, one of the things that we were discussing is our journey in health has been at times, it's very organic and has been at times just serendipity. And so just a quick example, being able to measure your heart rate led to a number of individuals sending us notes about their heart, as I mentioned. And that led to our work on understanding your heart rhythms. And that led to now our work that we released just recently, which is AFib history, where you're able to look at, if you have the condition of atrial fibrillation, how your lifestyle...
Just looking at your watch and the statistics.
Having your lifestyle of how much you sleep, how much you move, how much you are, what your weight is, how that can have impact on your AFib. And the reason that matters is if you don't take care of your heart with AFib, you can have chronic congestive heart failure down the line. And so if we can start making those connections for individuals so they understand how they live their life, it actually impacts their conditions, that's what we're focused on.
Bon, Sumbul Desai qui prêche la bonne parole, effectivement, et ce feu vert de la FDA en ce qui concerne Parkinson, bah, ça va être aussi un argument commercial de plus. Fabrice, ouais. François.
Oui, oui, bien sûr. Comme disait Ellie, c'est un instrument qui devrait être remboursé. Alors là, c'est pas l'accord de la FDA qu'il va falloir pour la sécurité sociale. C'est pas le même pays. non, ce qui est frappant, c'est que là, pour le coup, une des caractéristiques, comme on le sait tous, hein, de la maladie de Parkinson, ce sont des mouvements désordonnés pour une grande partie des Parkinsoniens. C'est pas tous comme ça, mais enfin, c'est une grande partie et c'est comme ça qu'on les voit souvent. Et donc là, l'Apple Watch est très, très adapté pour repérer des mouvements parasites. Donc on voit bien à quel point l'Apple Watch peut rendre service. On avait vu aussi que Apple avait montré, je crois que c'était pour l'Apple Watch série 7, je me souviens plus exactement, capable de faire de la détection non seulement de chute, mais aussi de changement dans la marche, dans les pas qu'on fait pour détecter des comment dirais-je, lorsqu'on n'est plus régulier, une irrégularité des pas.
Des déséquilibres.
Et des déséquilibres.
Je crois que c'est la même API, hein, d'ailleurs.
Et je pense, voilà, et c'est la même API, effectivement, et donc ça veut dire que cette API est très, très précise pour pouvoir détecter ça. C'est donc fascinant, et c'est probablement, entre guillemets, plus facile à faire que le diabète que tu évoquais aussi, parce que le diabète, on a besoin d'un autre capteur, qui pour l'instant, on sait faire du calcul de diabète avec un capteur invasif. Il faut piquer, voilà. Ils cherchent beaucoup à faire de la détection de différenciation de couleur du sang pour trouver un calcul de glucométrie. C'est à chaque génération, l'Apple Watch est de plus en plus précise pour faire de l'accompagnement médical. C'est fascinant, ça.
Ouais. François, toi qui l'utilises beaucoup pour te maintenir en forme,
est-ce que c'est aussi...
si. Est-ce que c'est aussi un outil pour suivre ta santé?
Ouais, alors on sent vraiment qu'Apple met le paquet là-dessus. C'est vrai que pendant la keynote, il y a eu énormément de communication de fait sur la partie suivi du sommeil aussi, sur la partie apnée du sommeil, etc. On sent que il y a vraiment, ça devient un objet de santé. Moi, c'est vrai que je joue pas mal avec, alors que ce soit pour des activités physiques. Tu vois, Fabrice, tu parlais de l'histoire de l'équilibre de la marche. Je me suis amusé justement à aller regarder, pas plus tard qu'hier, mes statistiques de santé. Et c'est plutôt sympa à voir, même au niveau de la VO2, au niveau de... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup et de plus en plus de capteurs, de calculs de faits. Et je trouve ça vraiment intelligent de la part d'Apple. Et je pense que ce sera encore mieux le jour où on aura une batterie qui tiendra encore plus la marée. Parce que c'est vrai que moi, j'essaierais bien de dormir avec mon Apple Watch, mais moi, je la décharge quand même énormément le soir. Généralement, je suis à 30%, 20%, 30%. Et c'est vrai que si je veux dormir avec, il faudrait que je l'aille charger une bonne heure, quoi. Donc c'est un petit peu la limite que je mettrais à ça. Moi, le capteur aussi que j'attendrais, c'est le capteur de température, parce qu'on a, on a quand même beaucoup d'éléments. Et ce serait sympa de pouvoir l'avoir en statistique aussi. Maintenant, je vous avoue que j'ai été touché par... Par le Covid ou la Covid, hein, je sais jamais comment on dit, il y a 15 jours, et je me suis amusé justement à regarder si mon taux de CO2 évoluait énormément, baissait, etc. Et au final, j'étais assez surpris, ça a pas bougé, j'étais à peu près dans les mêmes eaux que d'habitude. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de cas de baisse. Maintenant, voilà, j'ai pas fait un test empirique, un test scientifique, pas du tout, c'était juste par simple curiosité. Mais on sent vraiment que c'est le côté santé qui est mis en avant par Apple, et ça va continuer, ça va perdurer. Si ça peut permettre encore de sauver des vies et d'accompagner des gens dans leur maladie, je trouve ça, c'est un gros plus, je trouve ça très intéressant de la part d'Apple.
Michael Login, toi qui vis aux États-Unis, je sais pas, est-ce que tu as une Apple Watch d'abord, toi?
Alors moi, j'en ai une. Ouais. Et je dis bien, j'en ai une.
T'en as
et
une.
Et je rebondis justement sur ce que disait François. Moi, ce qui me... Alors, je trouve la technologie incroyable. Je trouve l'objet incroyable, justement, parce que même s'il peut aider ne serait-ce qu'une personne, ça vaut le coup. Moi, dans mon utilisation, qui fait beaucoup de hike et tout ça, c'est génial, mais la batterie, c'est un vrai défaut, en fait. C'est un vrai défaut, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé chez Garmin. C'est juste pour ça, en fait. Donc, mais pour en revenir à justement l'aspect santé.
Ou chez Weezings.
Voilà. C'est l'aspect santé, lui, est indétrônable. Et à chaque fois, il pousse encore et encore les. Je trouve que ce que font les ingénieurs, c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est, Et est-ce... réussir avec un objet comme ça à pousser la santé à ce point-là, c'est vachement bien. Après, le matériel, je trouve, pêche un peu.
Ouais, bon, on sait l'enjeu de la santé aux États-Unis, où ça, elle coûte très cher. Est-ce que les mutuelles s'en emparent? Est-ce que ça devient un outil de, à la fois de suivi, peut-être pour payer moins cher?
Absolument pas.
Non.
Ce que j'allais dire.
Absolument
non.
Pas ici. Par contre, il y a un monopole ici d'Apple qui est incroyable. Enfin, je pense facilement que 9 personnes sur 10 ici portent une Apple Watch. C'est, en tout cas, en Californie, ouais. Ça c'est incroyable. Ne serait-ce que l'hégémonie d'Apple en général ici, c'est quand même, il y a aucune compétition pour le coup. C'est, ouais. Android ici n'existe pas. Donc.
Ellie.
Mmh. Bah, je voulais juste rajouter un truc, c'est que peut-être que la dernière fonction santé qui va sortir, ça sera justement le capteur de température corporelle. Parce que c'est purement de l'algorithmie, on en avait déjà parlé, et c'est le truc dont tout le monde va vouloir parler et qui est le plus facile à tester. Parce que bon, tester une fibrillation atriale pour le cœur, bah, on espère ne jamais avoir à faire ce test un jour, mais bon, on ne peut pas y parler. Par contre, tester sa température, on va être tenté de dire « Ah ben tiens, là je me sens un peu chaud là ». Et il ne faut pas qu'ils se ratent là-dessus, parce que sinon ils vont les tuer. Donc ça sortira peut-être en dernier quand ils seront sûrs que c'est fiable.
Bon, on va suivre évidemment les progrès de l'Apple Watch avec la série 8 qui est attendue pour le mois de septembre, hein, si tout va bien. On verra bien si de nouveaux capteurs arrivent dans l'Apple Watch, n'est-ce pas Fabrice? Peut-être pour le diabète, on en parle depuis 2-3 ans hein, déjà. Ce serait évidemment
on en parle presque
assez majeur.
Pour rebondir sur Tim Cook, Tim Cook en parle depuis presque aussi longtemps que la réalité augmentée.
Oui, mais stay il n'a tuned, pas dit quoi. Stay tuned, donc justement.
C'est vrai.
Ah ouais.
Je sais pas ce qui vaut mieux d'ailleurs. Bon.
Oui, je sais pas non plus.
Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes avec notre invité de la semaine, c'est Mickaël Laugin. Il est retoucheur photo et coloriste. Il est en duplex de Los Angeles et ça va être passionnant. À tout de suite. Direction la Californie, le Pacifique. Et le studio de Mickaël à LA, c'est vraiment super que tu sois avec nous pour nous parler de ta spécialité, celle de retoucheur photo. Alors, tu t'es spécialisé, je sais pas si ça a été ta volonté ou ça s'est présenté comme ça, mais dans les photos de voitures. Tu as commencé à bosser avec Toyota, je crois que c'était ton premier client.
Ouais, c'était mon premier client. Ouais.
Et puis après, ben, Cadillac, Hyundai, Lexus, BM, Mercedes, Porsche et d'autres. Tu as fait ta première expo à 24 ans. Je crois que tu es considéré comme l'un des plus talentueux et aussi l'un des plus jeunes dans ta discipline. Tu as fait des études à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce que tu en es venu à te spécialiser dans la retouche et dans la bagnole, comme tu dis.
C'est marrant. En fait, j'ai commencé par une prépa en école d'ingé pendant 2 ans. Et c'est marrant l'histoire parce que c'est là où j'étais fou d'informatique, en fait. Et après mes 2 ans de prépa, j'en avais marre de faire des présentations en costume. C'est vraiment la pure vérité. J'en avais marre de faire des présentations en costume, aller en cours dans des amphis et tout ça. Je voulais quelque chose d'un peu plus cool, parce qu'à l'époque, j'étais assez jeune. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la photo? Donc du coup, j'ai fait une école de photo. Et je me rappelle, ma mère était complètement folle. Qu'est-ce que tu vas faire en photo alors que t'es dans une école d'ingénieur? Je me suis lancé en photo parce que je voulais être le photographe cool, voilà, qui fait des photos de mode avec des gonzesses et tout. Et j'étais jeune à l'époque.
Mais attends, parce que tu fais pas vieux, donc on parle de quelle année là?
Bah, j'avais 20 ans à l'époque.
Et c'était en quelle
là,
année?
J'en ai 35, donc.
Ouais, donc 2007, 2008.
Ouais,
quoi.
C'est ça, 2006, je crois. 2006,
l'arrivée de l'iPhone, en fait. C'est l'arrivée de l'iPhone.
Exactement. Mais en fait, tout est arrivé en même temps. En fait, l'iPhone, ma découverte du Mac, ce genre de choses, justement. Parce que du coup, moi, j'ai fait l'école de photo pendant 4 ans. Et c'est là que j'ai découvert l'univers Apple et Mac, parce que c'est une hégémonie aussi dans cette industrie. Et après ça, en fait, pourquoi la retouche? Moi, j'ai appris la photo. Donc, j'ai un bachelor en photographie. Mais je me suis mis dans la retouche parce qu'à l'époque, il fallait payer les factures et que être photographe en France, c'est assez long. C'est une industrie qui est très fermée et ça prend à peu près 10 ans pour se faire un nom en tant que photographe, pour vraiment en vivre. Et quand on sort d'une école, on a besoin de payer les factures tout de suite. Et donc, du coup, la retouche, moi, j'avais déjà commencé la retouche pendant mes études et puis je l'ai poussée après mes études et puis en autodidacte, en fait. J'ai eu un prof qui était incroyable, l'informatique, qui m'a vraiment boosté à mort là-dedans. Et du coup, c'est là où je me suis plus épanoui, ouais, dans la retouche plutôt que la photo.
Mais comment tu as deviné que tu pourrais vivre de la retouche? Parce que aujourd'hui, avec un Photoshop, on a l'impression que n'importe qui peut, entre guillemets, retoucher une photo.
Bah, je pense que c'est en même temps, au même moment où justement je me suis spécialisé dans l'automobile, en fait. Parce que il y a énormément de personnes sur le marché, encore plus maintenant, il y a une créativité qui est incroyable.
Tu parles de photographes ou de retoucheurs ?
De tout ça en fait, de photographes, retoucheurs et tout ça. Alors pour parler plus de la retouche, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez fermé, mais en même temps pas trop, parce que c'est pas Photoshop qui a amené la retouche. Hein. Donc la retouche, ça existe depuis que la photographie existe. Donc on retouchait les argentiques. Moi, j'ai retouché des argentiques en chambre noire et tout ça. Donc la retouche a toujours existé, mais pendant longtemps, Photoshop a été, on va dire, malmené. Parce qu'elle a été une très mauvaise image, en fait, de la retouche en règle générale. Donc,
c'était plus du bidouillage et du trucage qu'autre chose, non ?
Oui, Photoshop, c'est... Au début, Photoshop refaisait ce qu'on faisait en argentique, c'est-à-dire corriger des imperfections, des pellicules et tout ça. Et après ça, quand les gens ont commencé à développer leurs compétences voilà, sur ce logiciel, et que le logiciel a lui-même évolué, les gens ont commencé à créer des choses nouvelles qu'on pouvait pas faire pour le coup en argentique, et c'est là où je pense que Photoshop a un peu vrillé et est parti un peu en sucette, où les gens ont commencé à faire des trucs un peu loufoques, et je pense que ça correspond un peu au moment où Photoshop a eu cette mauvaise image, où on disait que les images étaient photoshopées. Ça, c'est la pire période en fait hein, qui s'est passée, et je pense que là maintenant c'est rentré dans les mœurs et les choses se sont un peu calmées. Et maintenant, les gens comprennent plus ce que c'est la retouche. Enfin, j'espère en tout cas.
Comment est-ce que tu as décroché ton premier contrat ? Je disais que c'était avec Toyota, je crois.
Ouais, tout à fait. Concours de circonstances. J'avais fait un stage dans un studio de retouche à Paris. D'ailleurs, je le salue, c'était avec Christophe Daguet. Et qui était le retoucheur d'un photographe photo hyper connu qui s'appelle Dingo. Et il m'appelle, il me dit, écoute, il y a un boulot là que j'ai pas envie de prendre, parce que c'était 15 jours dans un studio en Belgique, dans le noir, enfin c'était assez dur. Mais moi je sortais d'école, donc j'étais là, ouais vas-y, on y va à fond, je le prends, je t'aide. Et du coup j'ai rencontré ce photographe qui avait besoin de quelqu'un, en fait, tout simplement. Et puis en fait c'est juste le hasard, comment j'ai eu mon premier boulot, c'était vraiment le hasard. Et ce boulot là, qui a duré 15 jours et qui était, horrible, pour le coup, qui était horrible. Ben en fait, ça m'a mis un pied dans l'automobile, ça m'a mis un pied dans la retouche où les clients m'ont fait confiance, ça m'a mis un pied auprès d'un photographe qui m'a fait confiance. En fait, ce boulot qui était au final très dur, c'est lui qui m'a ouvert toutes les portes, en fait, vraiment toutes les portes. Parce que quand tu signes avec un client aussi prestigieux que Toyota, qui est quand même la plus grande marque au monde, tu gagnes en crédibilité, en fait. Et du coup, les gens t'écoutent plus. Quoi.
Et ça veut dire que depuis, tu travailles avec les mêmes photographes ? Est-ce que c'est une sorte de duo photographe-retoucheur ?
Oui, c'est ça que les... Enfin, souvent, je pense que quand on est retoucheur et quand on évolue dans la post-production en général, on apprend à mettre son ego vraiment en arrière, on va dire. Parce que on entend souvent les photographes, on connaît le nom des photographes et tout ça, mais personne ne pense à la retouche qu'il y a derrière, personne ne connaît les retoucheurs d'un tel ou tel photographe. C'est quelque chose, c'est un métier, et la post-production, comme la colorimétrie et ce genre de choses, c'est un peu dans l'ombre, on va dire. Mais c'est vachement valorisant, parce qu'on sait qu'un photographe, en fait, ne pourrait pas exister sans retouche. Donc, c'est...
Alors j'imagine que tu as tous les bons outils pour travailler. C'est quoi ton setup qu'est-ce que tu utilises ?
Un Mac déjà.
Lequel ?
Alors moi pour faire la chronologie, moi j'ai commencé avec un Mac Mini en cours parce que c'était le plus abordable. Et après ça, quand j'ai eu mon diplôme et que je me suis lancé en retouche, j'ai eu un Mac Pro, j'avais fait un crédit dessus, que j'ai pris un milliard d'années à rembourser. c'était à l'époque des crédits à la consommation, mais au final, ça m'a bien servi. Et après ça, je suis passé sur... Donc j'ai eu le Mac Pro avant le Mac Poubelle, hein, en 2013. Donc j'ai eu le Mac Poubelle
en
2013.
Donc la tour, tu as eu la tour.
J'ai eu la méga tour, voilà. Ouais. Après, j'ai eu le Mac Poubelle, honnêtement, il a été vachement décrié, mais mine de rien, c'est quand même un Mac que j'ai acheté en 2014 et que j'ai utilisé jusqu'à 2021. Donc, 7 ans, il a été très rentable.
Ouais.
Donc, je trouve, alors oui, il a beaucoup de défauts, mais non, j'ai dit une bêtise. Non, je l'ai utilisé jusqu'en 2018 parce qu'après je suis passé sur un iMac Pro et, et là ça fait quelques temps que je suis sur les M1 et là en ce moment, en tout cas, ma config actuelle c'est un MacBook Pro 16 pouces M1 Ultra, je crois, avec 64 Go de RAM et c'est une tuerie en fait. C'est incroyable.
Ça doit être un M1. Ça doit être un M1 Max.
Max, oui.
Ouais, Max,
oui, parce que le Ultra, c'est sur le studio.
Ouais.
Oui, c'est un M1 Max, oui, tout à fait. Ouais. Désolé. C'est ça.
Je te le dis, parce que sinon, tu vas te faire taper dessus par Twitter, donc je préfère que tu te corriges en direct.
Ou merci, alors, on va se dire, oh, mais lui, il a un proto, comment il a fait.
mais au final, voilà, en fait, c'est, je pense que c'est un bon... la machine et ce qu'il y a dedans, ça a très peu d'importance, en fait. C'est marrant, hein, parce que c'est moi j'ai toujours été un geek à regarder les specs et tout ça, mais c'est vrai que à force de bosser et tout ça, moi le seul truc que je regarde c'est est-ce que la machine elle tient le coup et est-ce que je peux ouvrir des images de 25 Go avec un ordi et c'est le cas. Et je trouve ça incroyable. Donc.
Alors qu'est-ce que ça a changé de passer de l'iMac Pro au MacBook Pro M1 Max?
Je pense qu'il gère la mémoire beaucoup mieux. Je ne suis pas assez technique pour connaître exactement comment fonctionne la gestion de la mémoire. Mais
à l'usage, qu'est-ce que ça a changé?
Ouais. À l'usage, c'est beaucoup plus réactif, c'est beaucoup plus snappy, comme on dit. C'est beaucoup plus...
Je sentais
qu'avec les Intel, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y a quelque chose qui marchait pas en fait. Les dernières années, il y avait quelque chose où je crois qu'ils avaient atteint un plafond de verre et c'était de plus en plus difficile de travailler avec du Intel et même avec l'iMac Pro, c'était de plus en plus compliqué parce qu'en fait, on a des images qui sont de plus en plus grosses et l'ordi suivait pas. Donc, malgré des quantités de mémoire incroyables, avec des swap disks qui vont bien, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, et le passage à Apple Silicon a été et est incroyable. En termes d'usage, c'est fou ce qu'on peut faire avec un ordi portable, et avec le nouveau Mac Studio qui est sorti, c'est encore un autre délire, mais en tout cas avec un ordi portable, qui vaut son prix certes, mais en termes de productivité, il est incroyable. Ouais. Il ne ralentit jamais, l'autonomie est complètement folle, tu peux très bien passer de faire des rendus dans Blender à passer sur du Photoshop, à faire de la colorimétrie sur DaVinci, et tout ça sans aucun à-coup, sans aucun accroc, et voilà, en termes d'usage, c'est génial, en fait. C'est vraiment...
Bon, je voudrais pas qu'on termine cette interview sans faire une bise à Patrick Curtet, qui est un photographe aussi à LA avec qui tu travailles, et qui est un de mes meilleurs amis. Donc, je fais une grosse bise à Patrick et à Marlene, sa chérie. Vous travaillez ensemble en ce moment?
Ça fait longtemps qu'on bosse. Je connais Patrick depuis 9 ans maintenant, 9 ou 10 ans. Et c'est lui qui m'a poussé à venir à LA, justement. Qui m'a dit, il faut que tu viennes ici, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, dans l'industrie de l'automobile et tout ça. Tous les studios de design automobile se trouvent à Los Angeles. Donc, du coup, il y a une vraie... Et puis, il y a des grosses marques automobiles ici aussi. Donc, il y a une vraie énergie, il y a beaucoup de production qui se passe ici, sur la côte ouest, parce qu'il fait toujours beau. Donc, du coup, c'est très facile pour les marques. Et Patrick, effectivement, il m'a beaucoup... il m'a dit, il faut que tu viennes, parce que c'est...
Ça fait combien de temps, là, que tu es en Californie?
Ça fait 4 ans, ouais.
4 ans.
Ça fait 4 ans, ouais.
Bon,
et 4 ans et c'est chouette.
Puisqu'on parlait des outils, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle change pour toi? C'est un plus ou tu t'en sers pas?
Je m'en sers absolument pas. Je trouve qu'à chaque fois que Adobe rajoute des choses, c'est inutile, on va dire, dans mon cas.
Pour toi?
Peut-être. En fait, ouais. Dans mon cas, on va dire que c'est inutile, mais je trouve ça incroyable qu'ils le font. Voilà. Je trouve tout ce que fait Adobe, justement, pour ouvrir, justement, les outils au maximum de personnes. Je trouve que c'est génial parce que ça ouvre la créativité à plein de monde. Et ça, c'est génial dans un monde où, justement, il faut développer sa créativité, sa manière de penser et tout ça. Et je trouve que offrir les outils aux gens, que ce soit Apple avec des machines incroyables, que ce soit Adobe avec des outils justement de plus en plus à la portée de chacun et tous les autres acteurs. Hein, on parle des plus gros, mais je trouve ça génial en fait pour l'humain justement.
Comment est-ce qu'on peut te contacter, Michael ? C'est quoi le plus simple ?
Principalement sur Instagram, je dirais.
Ouais.
Sur Instagram, ouais, mika.login.
Donc c'est L-A-U-J-I-N.
M-I-K-A.login, L-A-U-J-I-N. Ouais. J'ai eu une absence de... J'ai été pendant 4 ans à LA, en fait, j'ai été responsable d'un studio de retouche ici. Et du coup, moi j'étais freelance. Exactement, chez Vintech, tout à fait. Et en fait, Vintech, c'est une société qui met à disposition à la base des designers et des retoucheurs et tout ça pour les studios américains qui font venir des talents, entre guillemets, français. Et ils les mettent à disposition des studios américains. C'est une sorte d'agence. Et donc, effectivement, je bossais chez Vintech pour une société anglaise, pour le coup, qui est basée à LA. Donc, pas mal d'intervenants, on va dire.
Bon, bah super. Bah, écoute, c'est un plaisir de découvrir à la fois ton métier et puis de connaître ton histoire, parce que je trouve ça à la fois super courageux d'être parti, et vivement, t'as bien fait. Donc, grand bravo à toi. On va continuer à avancer dans le programme de cette iWeek. Dans quelques minutes, on va aborder les rumeurs de la semaine. Mais d'abord, on va commencer par les vraies infos, c'est Pommes. Pommes, les trois infos de la semaine, et on commence par les premiers tests du MacBook Pro 13 pouces M2 qui sont arrivés en attendant le MacBook Air M2. Qu'est-ce qu'on peut dire, Fabrice, de ces premiers tests ?
Alors, disons tout de suite, on est, je crois qu'on la est patate tous chaude. D'accord que c'est des patates chaudes, parce que bon, pour les auditeurs donc qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, personne ne veut en parler de celui-là, alors je suis tout seul à vouloir en parler.
Mais non,
moi, je trouve que c'est intéressant comme les premiers tests sont arrivés, donc qui confirment la puissance de cette puce M2. Ce qui me frappe déjà, c'est que dans cette machine qui coûte en gros 1 500 euros, j'arrondis un peu, elle est plus puissante que l'iMac Pro, premier modèle qu'évoquait Mika tout à l'heure. Moi, je trouve ça complètement fou, et donc ça confirme la révolution Apple Silicon que Mika évoquait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que cette machine, qui est donc, je confirme, là je suis d'accord avec tout le monde, il faut pas l'acheter. Enfin, c'est-à-dire que le nombre de...
Si, j'espère que nous avons acheté. Hein.
En gros, c'est vrai qu'il y a une petite déception dans cette machine, parce que on parle du MacBook Pro 13 pouces qui, pour beaucoup, et nous y compris, je pense, n'a de pro que le nom. Le design est un peu vieillot, l'écran est pas terrible, la webcam, on n'en parle pas, etc. Mais c'est la première machine avec le M2 qui coûte donc 1500 euros, qui est plus rapide qu'un iMac Pro d'il y a quelques années qui en coûtait 6000. Qui montre toutes les promesses tenues et dans la durée d'Apple Silicon. Je trouve ça fantastique, quoi. Voilà, et on devrait avoir les mêmes performances dans le MacBook Air qui a été présenté à la WWDC, qui va être arrivé dans le courant du mois de juillet. C'est incroyable, quoi. Voilà.
Mais François?
Ouais, je suis pas complètement d'accord avec Fabrice, il y a quand même deux petites différences, je pense. On aura deux différences, c'est l'histoire de l'autonomie. Vraisemblablement, l'autonomie risque d'être plus importante sur le MacBook Pro. On évoque deux heures de plus d'après Apple, donc dans certains cas, ça peut avoir un usage. Et puis, il y a toujours la fameuse question du ventilateur. On rappelle que, si je dis pas de bêtises, le MacBook Air n'aura pas de ventilateur, alors que le MacBook Pro en a. Donc peut-être que potentiellement, sur des actions un peu lourdes, ça peut servir. Et je sais plus qui nous a fait remarquer ça sur Twitter. Mais c'est vrai qu'aussi, en période de forte chaleur, peut-être que le ventilateur, il va aussi pouvoir servir, parce que on était en pleine canicule la semaine dernière. Et peut-être que le fait que le MacBook Pro ait un ventilateur, ça pourra jouer aussi sur les performances de la machine. Donc à voir, mais clairement, je rejoins Fabrice et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est vraiment une machine ovni et on se demande à quoi elle sert.
Ouais. Mika, t'es du genre à faire tourner les ventilateurs, toi ?
Ça tourne pas mal, ouais. Mais en fait, bizarrement, ça tournait énormément avec l'iMac Pro.
Ouais.
Mais alors celui-là, il reste... assez silencieux.
Le MacBook Pro 16, tu veux dire
Ouais. Alors évidemment, ça tourne, mais c'est pas un avion de chasse, quoi. Donc,
Tu confirmes que la webcam est vraiment excellente, hein, parce que l'image est propre. Hein.
Ah oui. C'est à vous d'en juger.
Ah ouais, ah ouais, très propre. Élie, ce MacBook Pro 13 pouces M2, il arrive demain vendredi. Hein.
Absolument. Donc, on pourra le découvrir en démonstration dans nos showrooms et les gens pourront même l'acheter s'ils veulent. Donc, il sera disponible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est avec le M2, c'est que ce processeur, en fait, est comme on l'attendait. C'est-à-dire, c'est un processeur évolutionnaire. On a parlé des premiers tests. Le problème, c'est qu'ils sont faits avec Geekbench. Et tous les tests sont faits avec Geekbench. Et Geekbench, il va tester la puissance en application qui utilise un cœur, en multicœur et point. Et là, on a des performances, effectivement, de 12 à 20%, suivant si on utilise le GPU ou pas. Mais c'est une machine qui utilise énormément le Neural Engine, de plus en plus. Et le Neural Engine, c'est 40% de performance. Donc, ça veut dire que les premiers tests ne donnent pas la puissance complète de la machine. Ça donne une mesure par rapport au précédent, très bien. Mais à l'usage, les gens, par exemple, qui vont utiliser une application de retouche ou d'autres, et qui utilisent un peu le Neural Engine, alors c'est pas fait pour envoyer des mails, hein, mais là on n'a pas vraiment besoin de puissance, hein, mais vont s'apercevoir que c'est quand même plus intéressant. Après, le deuxième côté, qui n'a rien à voir avec le M2, c'est le design, et évidemment, avoir présenté du M2 sur une machine traditionnelle et du M2 sur une machine ultra fine avec une nouvelle couleur, un écran plus puissant, etc., bah les gens disent « Ah oui, mais on veut le M2 sur le MacBook Air ». Donc bon, et celui-là n'est pas disponible, hélas.
Voilà, donc c'est pour patienter aussi, comme on dit.
Mais en attendant, un MacBook Pro avec un M2, ça fait le boulot. Hein.
Bah oui. C'est une machine qui peut t'intéresser, Mika, ou pas du tout ?
Le plus important, en fait, c'est la quantité de mémoire disponible. Et ils n'ont pas encore annoncé, je crois, M2 Pro ni Max, il me semble.
Pas encore.
C'est juste qu'on est sur du M2 classique. Donc, ouais. c'est la mémoire, c'est le plus important. En tout cas, dans mon usage.
Donc, ouais. Ouais.
Ah oui, donc un maximum de 24 gigas, c'est pas suffisant pour ouvrir images à 25, du coup.
Pas du tout. pas du tout. Il faut un minimum de... Enfin, c'est le grand minimum, 64. Ouais. Sinon, ouais. Idéalement, 128 ou...
Et ça, c'est le Mac Studio.
256.
Ouais. C'est le Mac Studio qui fait
ça. Mais en tout cas, avec 64, déjà, c'est génial.
Ça va mieux. Bon, on passe à la deuxième news de ce POMES. Alors, on va à l'autre bout du monde, on part en Chine. Le mois d'avril avait été catastrophique. Les ventes d'iPhone avaient... Enfin, c'était effondré. Hein. C'était très largement lié au confinement et au Covid. Et bah, forcément, puisque les mesures de restriction ont été levées le mois de mai, c'est dans l'autre sens. Donc, plus 147%. Les ventes d'iPhone en Chine par rapport au mois d'avril, en mai. L'an dernier, l'augmentation entre avril et mai n'avait été que de 22%. Donc de 22 à 147%, il y a quand même une grosse, grosse différence. L'iPhone serait à 20% de part de marché en mai, contre 9% en avril. Et puis l'autre signe positif, c'est les expéditions d'iPhone fabriquées en Chine, donc vers le monde entier. Plus de 40 millions d'exemplaires serait parti de Chine rien qu'au mois de mai. 40 millions en un seul mois, c'est pas mal. Hein,
c'est énorme.
Ouais.
Une petite broutille.
C'est encore de l'iPhone 13 ?
Oh bah oui. Mm. Oui, oui. L'iPhone 14, un tout petit peu après. Hein. Ils sont en train de le produire, mais pour l'instant, il est encore stocké là-bas. Il va pas tarder à voyager.
Oui, mais comme le disait François dans La Quotidienne, c'est quand même assez remarquable que, alors qu'on est en juin quasiment au mois de juillet, Apple vend encore autant d'iPhone 13, sachant, et tout le monde sait que l'iPhone 14 arrive dans 3 mois, quoi, Fabrice.
Alors, tout le monde le sait pas, justement. On est dans une petite bulle ou une grosse bulle. Enfin, nous, on parle de ça tous les jours. Il y a aussi les vrais gens qui ont envie donc c'est pas nous, hein, voilà, qui ont envie de changer d'appareil, qui y pensent depuis 6 mois parce que c'est aussi un budget et qui à un moment quand ils se décident ils disent bah voilà, je connais celui-là, on m'en a parlé, j'ai vu un copain qui l'avait, etc. Donc c'est pour ça que le rythme de vie d'un appareil est pas seulement au moment de la présentation au mois de septembre octobre et on se précipite dessus, ça c'est nous. Après voilà,
tout le monde a un petit neveu qui va dire non mais attends mamie, attends septembre.
Non, mais peut-être que ça dépend, parce que si, si mamie elle a un iPhone 12 à donner au petit, il sera content. Vas-y, mamie.
T'as raison. Bon, en tout cas, les signes sont plutôt positifs. Ça tombe bien parce que Goldman Sachs est plutôt pessimiste sur l'évolution de la situation économique globale et selon les analystes, on s'oriente de plus en plus vers une récession aux États-Unis, ce qui serait évidemment pas du tout une bonne nouvelle. La troisième news de ce POMES, c'est ce fameux nouveau chargeur 35 watts à double port USB-C qui commence à livrer ses secrets et à être ouvert, disséqué, coupé en deux, pour montrer un design assez unique, assez différent de ce qu'on connaît d'habitude. Alors que Fabrice brandit un chargeur à 3 USB-C et 1 USB-A, si je ne me trompe pas.
J'ai le même à la maison.
Qui vaut sans doute deux fois moins cher.
Oh, à peu près, oui, c'est ça. Mais, donc,
mais ce n'est pas un produit Apple.
Voilà.
59, 60 balles, quoi.
Quel avantage, celui-là fait 100 watts en plus. Voilà.
Ah, alors quel avantage à prendre le chargeur Apple de 35 watts à seulement deux ports USB-C, Ellie?
D'abord parce que c'est un chargeur Apple.
Voilà, d'accord.
Et ensuite, tu te rends compte que pour un chargeur, normalement c'est une info qui devrait passer juste inaperçu. Il y a des gens qui se sont précipités dessus, qui l'ont disséqué et qui ont fait tout un rapport, et on en parle, pour dire qu'il est symétrique, que en plus il y a de la pâte thermique, heureusement qu'il y en a, hein, parce que sinon ça serait la cata. Mais donc on va pouvoir disserter des vertus de ces chargeurs qui a comme mérite le fait d'être Apple et donc relativement cher, mais c'est Apple.
Ouais. Mais il y a un point important, est-ce qu'on a la garantie d'une charge identique des deux côtés et, voilà, est-ce qu'on évite les écueils des chargeurs pas chers qui savent peut-être pas gérer la répartition de puissance entre les différents ports?
Il faudra qu'on fasse le test, mais je pense qu'Apple table sur le fait qu'on ne va pas mettre forcément deux machines consommant 35 watts en même temps, donc on va mettre peut-être un ordinateur et à côté un iPhone qui lui consomme pas 35 watts en charge, hein. Donc on va mettre peut-être un MacBook Air nouveau puisque lui c'est 35 watts, et à côté on va mettre peut-être une Apple Watch, peut-être un iPhone, et donc du coup il s'en tirera honorablement. Mais peut-être que si on met deux MacBook Air parce qu'on en a deux, alors là on pourra faire le test.
Ouais. Bon, en tout cas, il vaut mieux éviter de mettre le MacBook Pro de Mika, parce que là, je pense que tu peux partir en vacances et revenir. Hein, ouais. Vu qu'il lui faut du 96 watts de mémoire. Ouais. Bon, voilà pour ces petites news. On va passer de l'autre côté, du côté des infos dont on ne sait en fait pas grand-chose. Ça s'appelle des rumeurs. À tout de suite. Et la première rumeur de cette semaine, elle concerne ces fameuses lunettes de réalité augmentée, les Apple Glass, hein, surnom amical qu'on leur donne, en attendant qu'elles deviennent un jour peut-être réalité. Elles seraient entrées en phase de développement du design, c'est Jeff Pou qui l'affirme. Jeff Pou, analyste chez Haitong International. Alors, on a des petites infos sur les fournisseurs de ces Apple Glass, avec Luxshare qui serait confirmé comme l'un des principaux fournisseurs. Et avec, pour le verre, deux marques, Corning et Hoya, et un prototype espéré à la fin de cette année. On parle toujours d'une sortie fin 2024. Un prototype...
Stay tuned.
Deux ans...
Non,
je
pas.
Le savais.
Moi, ce que j'aime bien, c'est le fournisseur Luxshare. Ça correspondra bien à au produit, je trouve. Il sera de luxe et il sera cher.
Français, effectivement.
Alors, tout à l'heure, on parlait du casque, Mika, mais le vrai produit qui fait rêver, c'est les lunettes, non?
Ah oui.
Ouais, honnêtement, ouais.
Comment tu les imagines?
J'espère très fines, au maximum. Je les espère, justement, en termes de design, comme Apple sait le faire, donc très belle et très légère, c'est ce qu'on espère, en fait. Mais surtout...
Mais qu'est-ce que t'espères, vous? À quoi t'espères qu'elles vont servir, surtout?
Je pense que c'est peut-être pour ça qu'Apple prend du temps à les sortir. Parce que quels sont les usages? Ça, c'est une bonne question. Donc, sur un casque de réalité virtuelle, on peut faire plein de choses super intéressantes. On peut développer, on peut découvrir des mondes incroyables, indéniablement. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que ça enferme beaucoup. Alors, quel usage en termes de créativité, par contre, je trouve ça plutôt pas mal, parce qu'il y a déjà des gens qui modélisent en 3D, en réalité virtuelle. Et est-ce que ça va pousser des gens à créer des choses pour le monde virtuel? Ça serait bien. Mais j'ai peur que ce soit une énième itération, une répétition des usages que tous les produits Apple font. Donc j'ai peur que ça soit un peu limitant. Mais comme au tout début, quand l'Apple Watch est sorti et quand l'iPad est sorti, on ne savait pas trop quoi en faire et les usages sont venus avec. En fait.
Donc, et l'Apple Watch surtout.
Alors, autre rumeur de cette semaine, elle concerne BOE, alors qui a quand même fait une très grosse boulette, puisque ils avaient quasiment signé des dizaines de millions d'écrans vendus à Apple pour être intégrés dans les futurs iPhone 14 et 14 Max. Et puis, en cours de route, ils ont fait une petite modif sur les écrans, mais sans prévenir Apple, qui s'en est rendu compte, et donc qui l'a assez mal pris. Donc, ils ont perdu le contrat. Mais finalement, Apple a quand même décidé de tester de nouveaux échantillons. Ça se passe cette semaine, a priori. Fabrice, tu disais que en fait, Apple a pas tellement de choix. Ils ont besoin de tellement d'écrans qu'ils reviennent quand même à la charge.
Moi, je pense que c'est ça. Ouais, c'est la rançon de la gloire d'Apple qui. Ça m'a fait repenser en complément de ce qu'on disait dans la quotidienne. C'est au moment des iPods, Apple a acheté toutes les mémoires flash NAND du marché et du coup les autres pouvaient pas fabriquer de concurrents parce qu'il y avait plus de mémoire disponible. Et là, on voit bien, on parlait tout à l'heure des envois d'iPhone par 40 millions par mois, en tout cas pour le mois de mai, puisqu'il y a du rattrapage, plus les composants, la pénurie de composants, en gros, Apple a besoin d'acheter tout, y compris, enfin semble-t-il, hein, y compris ceux avec lesquels ils sont pas tout à fait d'accord, sauf que bon, on va vous les acheter quand même parce qu'on a besoin, quoi.
On passe à la rumeur suivante. Alors, rumeur d'un MacBook Air à écran OLED en 2024. C'est Ross Young qui y croit très fort. Ross Young, il est spécialiste des écrans et c'est vrai qu'il est assez fiable. Bon, il a le Covid, le pauvre, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même très fiable. On parlerait donc d'un MacBook Air OLED à processeur M3, puisqu'on sera en 2024. L'un des intérêts, outre les contrastes, c'est vrai qu'ils sont assez uniques sur l'OLED, c'est le gain en termes d'autonomie, parce que les écrans OLED sont 30% moins gourmands que les autres écrans comparables pour ce type de portable. C'est pas contradictoire, un MacBook Air qui est un portable grand public avec de l'OLED qui est une technologie plutôt chère?
Moi, à mon avis, ça arrivera dans un second temps. Ce sera d'abord pour les modèles professionnels, on peut supposer.
Moi, je pense aussi.
Ouais, c'est-à-dire MacBook Pro?
Oui. Ouais, MacBook Pro d'abord. Mais ce qui peut être intéressant, par contre, c'est l'autonomie, puisque quand on voit déjà l'autonomie annoncée de 15, 16, 17 heures, si on passe à l'OLED, ça... Là, on tiendra une journée complète, une journée de 24 heures complète à bosser sur son ordi sans devoir le mettre à charger, ce qui est quand même plutôt cool, quoi.
Mika, tu es passé au MacBook Pro 16 pouces, donc tu es en mini LED. Est-ce que l'OLED te fait envie et apporterait un plus pour toi?
Pas spécialement parce que je retouche pas sur l'écran de l'ordi, pour le coup. J'ai un ISO, un écran à côté. Mais par contre, je pense que le passage à l'OLED, justement, va aider l'autonomie. Et ça, par contre, alors je ne sais pas si c'est pour les usages de tout le monde, mais en tout cas, en ce qui a été, en me concernant, l'autonomie, ça a été un choc. Ça a été, parce qu'avant ça, j'avais un ordi de 2017, je crois. Un MacBook Pro 2017, et c'était une horreur. C'était une horreur d'autonomie. Ça tenait 2 heures et ça chauffait de fou. Et là, en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que sur ces Apple Silicon, l'autonomie est tellement incroyable qu'on oublie de le charger et c'est pas grave. On pense pas à le charger. Et c'est ça qui est fou. En fait, par les usages, on va le brancher à un écran qui va le charger même un tout petit peu. Ou alors il va manquer un petit peu, on va le charger même une demi-heure. Et juste le fait de retirer l'autonomie de sa pensée, ça retire un poids c'est un vrai luxe.
Ouais, très intéressant.
Et toi, t'en as souvent besoin, Mika? Excuse-moi, Benjamin, parce que je suis très frappé. Il parle beaucoup d'autonomie, Mika. T'as souvent besoin d'être autonome, en fait.
En fait, l'utilisation de cet ordi, en fait, avant, j'étais sur des tours avec l'iMac Pro, avec la tour d'avant poubelle, et du coup, l'autonomie n'était pas un problème. Mais comme maintenant, on est beaucoup sur les shoots, on est à l'extérieur, on est en présentation, ou comme, par exemple, en ce moment, je suis sur un dossier où je bosse pas dans mon studio, mais je suis chez le client. Donc, du coup, je suis obligé de venir avec ma machine et tout ça. Et donc, du coup, on passe du temps sur la batterie, en shoot, par exemple, quand on est sur les prods. C'est pas tout le temps qu'on a des générateurs. Et donc, du coup, c'est pas tout le temps qu'on a des grosses batteries disponibles. Et c'est vrai que c'est très énergivore, la photographie connectée, justement. Et ben, d'avoir un ordi, voilà, qui tient la route, sans avoir un générateur tout le temps connecté à côté, ça fait la différence. Ouais.
Top, top. Bon, voilà pour les rumeurs de la semaine. Allez, on tourne une toute petite page et on dit un mot des mises à jour. Les mises à jour à faire cette semaine, eh bien, si vous utilisez la suite iWork, vous avez une version 12.1 pour Pages, Keynote et Numbers, à la fois sur iOS, iPadOS, macOS et sur iCloud. Allez, en un mot, qu'est-ce qu'on gagne à faire ces mises à jour, François ?
Bah, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans la quotidienne hier. Maintenant, sur Pages, vous allez pouvoir faire du publipostage avec des tableaux faits sur Numbers. Ouh, trop bien. Plus sérieusement, comme on l'a dit, ça peut servir et c'est quand même assez aberrant. Et je l'ai dit dans la quotidienne, moi, j'étais persuadé que ça le faisait, en fait, parce que pour moi, ça fait partie des fonctionnalités quand même hyper basiques, quoi. Mais on était obligé d'utiliser un plugin. Donc voilà, on sent qu'Apple, par petites touches, améliore cette suite de logiciels assez méconnue par les utilisateurs de Mac, hélas. Mais ça mériterait que tout le monde l'utilise plutôt que d'aller utiliser Microsoft Office.
Et puis alors c'est pas une mise à jour, mais en tout cas c'est une nouvelle technologie preview de Safari, c'est la 147. Elle est arrivée il y a un peu plus de 24 heures. Elle embarque plusieurs des nouveautés annoncées lors de la WWDC, notamment Live Text et le support de Passkeys. Fabrice, l'intérêt c'est qu'on peut tester donc ces nouveautés en restant sur mon trait et donc sans avoir à installer la bêta de macOS Ventura.
Oui. Alors, bon, le Passkeys là, qui est le futur sans mot de passe, qui est promis, c'est bien, mais faut pas se précipiter non plus, hein, parce que ça demande aussi beaucoup de travail du côté des serveurs. Hein, c'est une technologie côté serveur, comme on dit, pour pouvoir remplacer ces mots de passe par des clés de cryptographie. Donc c'est vraiment là pour...
Personne n'est prêt.
C'est pas
en
le
fait,
commun des mortels qui peut le tester. Hein, ouais, c'est vraiment ça. Le développeur qui va avoir ça sur son serveur. Donc on en reparlera plein de fois, parce que moi j'ai beaucoup envie de parler de cette techno. Mais voilà, bon, c'est une brique de plus, mais c'est pas prêt.
Le dîner d'Eli, entrée plat dessert, en plus c'est gratuit, c'est Eli qui invite. Eli, oui. On est à table, à toi le service.
Bah écoute, pour l'entrée, je peux dire que pour une fois, je suis assez d'accord avec le PDG d'un grand constructeur automobile qui est Volkswagen. Donc le PDG, Herbert Diess, a dit... dans une interview, qu'il ne pensait pas qu'Apple allait sortir une voiture, mais plutôt un logiciel qui pourrait s'intégrer dans les tableaux de bord des voitures, en parlant évidemment de la présentation de CarPlay 2.0. Et donc, comme moi je vous dis depuis des années que je pense qu'Apple va faire un système d'intégration dans le véhicule, que ça sera du logiciel maintenant connecté à du hardware et qui pourront le proposer aux autres constructeurs, lui il dit, voilà, moi, voilà, si Apple veut un jour faire une voiture... très bien, mais moi je pense qu'ils iront plutôt dans du logiciel, et pour une fois je suis d'accord avec lui.
Écoute, on est partant pour les deux, je crois.
Oui, on verra.
Allez, le plat de résistance.
Alors, on reste dans CarPlay, figurez-vous, hein, donc j'essaie d'être cohérent. Figurez-vous qu'il restait un constructeur, à part Tesla, hein, bien sûr, qui n'avait pas encore CarPlay. Et en fait, c'est Polestar qui est la division électrique de Volvo, qui vient d'adopter CarPlay. Alors bon, ça, ok, c'est un constructeur de plus, pas d'intérêt. Mais pourquoi c'est intéressant comme info ? C'est parce qu'ils utilisent à travers Android. Alors, bon, quel est l'intérêt de dire...
Attends, comment
pour utiliser CarPlay, parce que la voiture est équipée en Android Auto.
Et justement, c'est ça qui est très intéressant dans cette info, c'est qu'il existe vraiment une foultitude de petits boîtiers pour tous ceux qui veulent faire des choses sympathiques sur leur CarPlay. Je parle à plein d'auditeurs qui vont comprendre pourquoi. En fait, vous mettez un petit boîtier. Ça coûte entre 100 et 250 euros, suivant les fonctionnalités que vous voulez. Ce boîtier boot sous Android Auto, ou Android version 9 à 11, et vous permet d'utiliser CarPlay aussi, y compris en Wi-Fi, mais ça vous permet surtout d'utiliser Android Auto, c'est-à-dire que tout ce que vous voulez faire avec CarPlay qu'Apple ne veut pas que vous fassiez, par exemple utiliser Netflix, c'est très mal, ou des applications d'IPTV, ou des choses comme ça, ben vous êtes dans votre CarPlay, vous êtes content, ça marche super bien, etc. Vous avez envie de regarder un film sur le bel écran de votre voiture. Apple vous dit non, même à l'arrêt, c'est pas possible. Vous passez sur Android Auto, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le Play Store, vous téléchargez ce que vous voulez. Donc, vive Android pour compléter CarPlay.
Voilà. Pas mal, pas mal. Bon, et puis le dessert hein?
Oh ben, écoute, ça c'est assez rigolo parce que, en fait, figurez-vous qu'il y a maintenant un regroupement, donc un forum pour le métaverse. Il y a de plus en plus de noms, mais Apple a dit non, pas pour moi, je ne veux pas de votre métaverse parce que Apple, figurez-vous, veulent faire effectivement dans le casque de réalité virtuelle quelque chose de très technologique, très orienté, on verra quand il sortira. Mais donc, ce que veut faire Meta et les autres, ça ne les intéresse pas. Et pourtant, il y a des gens prestigieux, puisqu'il y a Meta, bien sûr, il y a Microsoft, il y a Sonic, il y a Nvidia. Il y a Adobe, il y a un nom qui était dans la liste avant, mais que j'ai laissé pour la fin, Epic Games. Et là, quand ils ont vu Epic Games, ils ont dit « Ah non surtout pas eux pas encore !»
Tu veux dire qu'Apple avance sur le même sujet, mais sans dire qu'ils vont faire partie du projet Metaverse, c'est ça?
Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans ce forum, vous êtes obligé d'appliquer, c'est un peu comme Matter, vous êtes obligé de partager vos API, de partager votre expérience pour être intercompatible et faire des choses qui vont marcher d'un univers à l'autre. Apple a son univers, ils ne veulent surtout pas, à ce stade, en parler aux autres. Le jour où le casque sera présenté ou le jour où le casque sera commercialisé, peut-être que dans une V2, ils se rapprocheront de ce métaverse si ça les intéresse, mais je pense que le métaverse d'Apple, si tant est qu'il s'appelle un jour métaverse, sera très différent de ce que vont faire les autres.
Bon, merci beaucoup Élie pour ce dîner à la fois automobile et virtuel. On se retrouve dans quelques secondes avec les news côté domotique, HomeKit, ma maison connectée. François, des nouvelles domotique HomeKit.
Quelques petites news du côté de Philips, la gamme Hue qui est très bien et qui est très sympa et plein de nouveaux produits qui ont été présentés cette semaine. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu l'occasion de parler de la petite lampe Hugo qui était plutôt pratique, qui fonctionnait sur batterie. Ils viennent de sortir un nouveau modèle qui fait un peu lampe de chevet, je trouve ça assez sympa, en noir avec un joli abat-jour, donc qui a l'avantage de fonctionner sur batterie, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dehors, par exemple. Elle est étanche en plus, donc vous pouvez pourquoi pas l'utiliser sur votre terrasse pour cet été, ou une fois que la lumière du barbecue sera éteinte, au moins ça pourra vous servir à vous éclairer. Ils ont aussi présenté donc une techno un peu originale, en fait c'est un système de rail aimanté sur lequel vous allez pouvoir fixer d'autres types d'éclairage. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. À mon avis, j'en connais un qui est juste en dessous de moi qui risque d'être intéressé. Et vous avez tout aussi d'autres nouveautés dans la gamme Gradient, c'est des grands tubes lumineux que vous pouvez mettre un peu partout, de différentes tailles, donc toujours pareil. C'est très très sympa. Et puis un nouveau bouton qui vous permet en fait de mémoriser différentes positions pour vos éclairages. Vous allez pouvoir allumer, éteindre, etc. Donc c'est un petit rail pareil qui se fixe au mur. Ça peut être aimanté, ça fonctionne à batterie et c'est plutôt pratique, je trouve. Donc encore pas mal de petites nouveautés chez Philips.
Mika, tu utilises de la domotique ou pas du tout?
À fond. j'adore la gamme Hue. C'est trop bien. J'ai la gamme Hue, j'utilise depuis qu'elle est sortie, et je trouve ça génial. Je trouve ça cool, ouais. Mais c'est difficile parce qu'on a envie de tout avoir en domotique, du coup.
Donc, eh oui,
ouais. Ça devient compliqué, les volets, le thermostat, les lumières, c'est...
Ellie?
Juste une petite info, puisqu'on a posé la question lors de la conférence de presse, à savoir comment allait faire Philips Hue pour fonctionner avec Matter. Ils ont expliqué qu'évidemment, il serait compatible Matter tout simplement par une mise à jour du bridge. Et que c'était ça l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'updater tous leurs produits. Le bridge sera mis à jour et sera compatible Matter. Après, l'autre info super rapidement, c'est que cette lampe, elle est merveilleuse. En plus, parce que l'autonomie est bien supérieure à la Hugo qui avait une autonomie ridicule. Le seul problème, c'est que 249 $, on ne sait pas comment ça va être traduit en euros. Mais c'est quand même cher pour une petite lampe rechargeable. Hein, mais bon.
Et c'est combien, l'autonomie est de combien?
8 heures.
J'ai
lu 8, hein, mais je peux me tromper par rapport à l'autre.
Ouais, mais c'est 8 en dollars, en euros, c'est 15 heures.
Non, mais par rapport à la Hugo, qui citait si elle tenait 2 heures, c'était par vent favorable.
Je suis.
Le temps que tu cherches, François, juste une petite info de mon côté. J'ai rencontré les gens de Netatmo ces dernières heures. Et donc, oui, ils vont passer à Matter. La mauvaise nouvelle, c'est que, sauf surprise, il n'y aura pas de mise à jour logicielle possible pour passer à Matter. Ce sera une nouvelle gamme.
Aïe,
évidemment.
Qui sera probablement associée à un redesign des produits, d'ailleurs. Donc, malheureusement...
De nouveau, pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, ils ont raté la grande grimace de François.
je n'ai plus de produit Netatmo actuellement, donc ça me conforte dans mon idée que je vais attendre un petit peu pour avoir du Matter. J'arrive pas à avoir l'info de l'autonomie, on vous la mettra sur Twitter.
Les coups de cœur de la semaine. Élie, on commence avec toi. Tu te transformes en
Jurassic moi. Ouais, Jurassic moi, vu mon âge canonique. En fait, non, j'ai découvert, parce qu'au départ, je ne l'avais pas regardé, les documentaires qui sont sur Apple TV+, sur justement l'ère préhistorique, parce qu'au départ, je pensais à un Jurassic Park revu et corrigé. Et en fait, les images sont fabuleuses. Et ce qui m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder, c'est que c'est une série qui est dirigée par Jon Favreau. Et Jon Favreau, tu sais que c'est un des grands, grands noms de l'univers Marvel et Disney. Et donc, c'est lui qui s'occupe des effets spéciaux et des animations et qui dirige tout ça, et c'est époustouflant.
Merci Élie pour ce coup de cœur. Fabrice, toi tu es ensorcelé par For All Mankind saison 3.
Ouais, alors donc je vais reparler de For All Mankind, j'en ai fait au début, je le fais à la fin, mais il y a un détail dans l'épisode 2 qui m'a fait absolument marrer. Alors, je ne vais pas trop spoiler, mais pour faire la suite, même pas trop, pas du tout, mais donc pour ceux qui ont, pour nos contributeurs Patreon, ils ont eu le droit à une formidable histoire du Newton par Élie, et on voit ce qu'aurait pu être le Newton si ça avait continué. Voilà, donc finalement j'ai pas tellement envie d'en dire plus, mais voilà, comme on sait, For All Mankind, parmi les trucs que j'adore, c'est la réécriture de l'histoire, et notamment de l'histoire technologique, et il y a donc un placement produit d'un produit Apple qui n'a jamais existé, qui est à une sorte de nouveau Newton. Je trouve ça génial, moi cette série m'explose la tête, je trouve ça génial, et ce détail en particulier, voilà.
Trop bien, et c'est sur Apple TV+, donc hein, si vous l'avez
exactement
raté. Moi, de mon côté, je voudrais reprendre une info qu'on avait évoquée dans La Quotidienne. En fait, c'est l'idée de cet internaute qui s'appelle Jonathan White. Vous le trouvez sur Twitter à l'adresse Schwa, S-C-H-W-A. Et il est en train de créer les supports adaptés aux différents modèles de Mac pour pouvoir poser votre iPhone, vous savez, au-dessus de l'écran et bénéficier de la fonction continuité qui a été présentée avec Ventura lors de la WWDC. Ça va permettre d'utiliser votre iPhone comme d'une deuxième webcam, notamment avec cette fonction qui va vous permettre de simuler une caméra au-dessus de votre tête, alors qu'elle ne sera que fixée à l'écran de votre Mac portable. Voilà, évidemment, il faudra trouver une imprimante 3D, mais ça risque de coûter quand même moins cher que les supports de chez Belkin, non ?
Il y a des chances.
Ouais. Probablement. directement vendu sur l'Apple Store, donc on sait ce que ça veut dire.
Mika, est-ce que tu as un coup de cœur à partager avec nous ?
Moi, j'ai un coup de cœur. C'est la sortie d'Unreal Engine 5, qui est sortie, la sortie officielle, qui est sortie, je sais pas, il y a 5 ou 6 mois.
Ouais.
Et je trouve que déjà, c'est gratuit, donc ça change. Et je trouve ça génial parce que cette itération, en tout cas, c'est une super possibilité pour les gens d'exprimer leur créativité, de créer des visuels, cinématographique et de qualité professionnelle. Et je trouve que la sortie de la version 5 donne beaucoup plus de possibilités aux gens et c'est beaucoup plus accessible et c'est très bien pour que les gens puissent exprimer leurs envies, leur créativité, leur vision. Je trouve ça génial.
Voilà, donc Unreal Engine 5. Ouais, ouais. Le coup de cœur de Mickaël Login qui était en direct avec nous depuis Los Angeles dans E-Week. C'est déjà terminé pour cet épisode 96. Je vous rappelle le bonus à découvrir si vous rejoignez notre communauté sur patreon.com/iWeek. Quelques minutes qu'on prend à la fin de l'enregistrement pour continuer à causer entre nous. En mode on n'enregistre plus, mais en fait ça tourne encore. Twitter @iWeekNews pour garder le contact tout au long de la semaine et puis réagir à l'épisode, nous poser les questions qui vous viennent. Mika, on peut rappeler le moyen de te joindre peut-être ?
Sur Instagram. Instagram mika.login. M-I-K-A.login. L-A-U-J-I-N.
Si vous avez besoin d'un des meilleurs retoucheurs dans la place, vous avez.
Même pour discuter.
Et même pour discuter.
L'humain est pour moi primordial.
Voilà. Tu salueras Patrick Curtet et les Français de Los Angeles pour nous. J'espère qu'on se verra un de ces jours in real life, comme on dit.
Avec plaisir.
Et pas dans Unreal. Je te conseille vivement la quotidienne iWeek, notre podcast quotidien gratuit. C'est un très très bon complément à la semaine Apple. Chaque jour, du lundi au vendredi, les 5 infos essentielles dans l'univers Apple et aussi de l'écosystème dispo sur toutes les grandes plateformes de podcast. On a besoin de votre soutien et de vos avis et de vos notes 5 étoiles, donc ne vous privez pas, notamment sur Apple Podcast. Salut la team, salut Fabrice, Élie et François.
Bonsoir. Salut chef.
Salut.
Bonsoir à tous.
Bonne fin de semaine à vous, passez un super week-end. On se retrouve jeudi prochain, on sera le 30 juin et ce sera l'épisode 97. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça sent un peu la centième, non ? Allez, je vous souhaite une très très bonne semaine et à très vite pour un nouvel iWeek. Salut à tous.
Bye bye. Salut à tous, bye bye.
Bye.
Merci Mika.
Merci pour la réception.